France Inter.
Voici le 13-14 avec Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue. Au menu de ce 13-14, des vaccins et des QR codes, voilà qui va certainement vous donner le sentiment d'être revenu plusieurs années en arrière. Et pourtant, c'est bien l'actualité de ce vendredi 10 mai 2024. On va en effet parler du géant français Sanofi, qui s'allie à son ancien rival, l'américain Novavax, pour développer un nouveau vaccin anti-Covid, mais combiné à la grippe. Et on verra que c'est une manière de rester présent sur un marché en pleine restructuration pendant que l'OMS tente de son côté d'arracher un accord sur la prévention des pandémies. Les négociations ne sont pas faciles, on va y revenir. Pendant ce temps, la préfecture de police de Paris détaille le dispositif qui sera mis en œuvre avant et pendant les Jeux Olympiques, qui va avoir besoin de présenter un QR code pour pouvoir circuler. On va détailler tout ça avec vous, Emmanuel Leclerc.
Oui, et la plateforme pour obtenir ces QR codes, ces laissez-passer numériques obligatoires dans certaines zones lors des JO, sera mise en ligne dans les minutes, les heures qui viennent, début de la délivrance de ces sésames dès lundi.
On fera le point avec vous tout à l'heure. Emmanuel Leclerc, on ira aussi se balader du côté du Var, parcouru par la flamme olympique aujourd'hui. À 13h30, on va accueillir une autrice et metteuse en scène, tout juste auréolée d'un Molière. Ayla Navidi a été récompensée pour sa pièce 4211 km qui raconte l'exil de ses parents iraniens, réfugiés politiques en France. Une pièce qui résonne évidemment avec l'actualité, une pièce universelle aussi sur la transmission, la quête d'identité. J'attends vos questions. 0145 24 7000. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, Brest va-t-il se qualifier pour la Ligue des Champions? Tout se joue ce soir et les supporters veulent y croire.
Stade Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, Coupe d'Europe. Je réalise pas encore. C'est magique, hein? Brest est magique. Avant c'était Paris, mais maintenant c'est Brest.
Voilà, direction Brest à la fin de ce journal. À 13h50, c'est la France. On va explorer les liens entre sport et cinéma à quelques jours du Festival de Cannes avec Jean-Philippe Leclerc du quotidien L'Équipe. Et puis la pianiste Shani Di Luca est au micro de Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Elle a choisi un titre de Juliette Gréco. Voilà, vous avez le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Il fut un temps, pas si lointain, où l'on se posait la question dans les dîners de famille. Et toi, t'as eu quoi? Le Pfizer, le Moderna, l'AstraZeneca, la guerre des vaccins battait son plein. Et elle n'est pas totalement terminée. Bonjour Magali Aumont.
Bonjour.
Le Covid, nous on l'a un petit peu oublié, ce qui oblige les laboratoires pharmaceutiques à revoir leur stratégie. Et le français Sanofi fait une annonce ce matin. Il va s'allier à son ancien concurrent, l'américain Novavax, proposer un nouveau vaccin combiné.
Oui, un 2-en-1 qui servira à lutter à la fois contre le Covid et contre la grippe. L'idée, c'est de fusionner le vaccin Covid de Novavax avec les antigrippes du laboratoire français. Un vaccin combiné, comme il en existe déjà en fait pour les enfants. Il s'agit de simplifier la vaccination, que ce soit pour les médecins, les patients ou les systèmes de santé. Alors pour l'instant, on en est au stade de la recherche. Quand sera-t-il commercialisé? Pas de date annoncée. Ces produits ne seront pas à ARN messager, contrairement à ceux que développe en ce moment Moderna, qui est en train de mettre au point notamment un vaccin grippe, Covid, bronchiolite. C'est donc une nouvelle course aux vaccins multiples qui commence avec des concurrents sérieux, BioNTech et Pfizer, qui avaient inondé le monde de leurs doses, au point de mettre à genoux le britannique AstraZeneca, qui a annoncé récemment retirer ses vaccins du marché. Il n'arrive plus à les écouler. Un déclin des ventes qui touche aussi fortement Novavax. Sanofi va donc lui venir en aide dès l'année prochaine. Ça fait partie du contrat, en commercialisant son vaccin anti-Covid déjà sur le marché. Un projet à plus d'un milliard d'euros pour le géant pharmaceutique français.
Merci pour toutes ces précision Magali Aumont. Et la question plus largement, c'est maintenant de savoir quelles leçons on a tirées de cette tragédie du Covid, quels moyens sont à mettre en œuvre pour mieux prévenir, pour mieux gérer à l'avenir les pandémies. Et c'est au cœur de négociations mondiales qui ont lieu en ce moment sous l'égide de l'OMS. Bonjour Célia Kilrich.
Bonjour Céline.
Alors il s'agit de trouver un accord historique sur la prévention des pandémies, mais visiblement les discussions sont difficiles.
Oui, 2 ans de discussions, de marchandage et en effet toujours pas d'accord entre les 194 États présents, un peu comme si on avait oublié les millions de morts liés au Covid-19 ou les conséquences économiques de cette pandémie. L'Organisation mondiale de la santé reste optimiste, mais à Genève, ça bloque sur des sujets majeurs. Dans le projet d'accord, il est question, par exemple, de donner à l'OMS un accès en temps réel à 20% des vaccins, mais certains pays producteurs ne veulent pas confier une partie de leurs réserves. Autre question non réglée, comment protéger les personnels de santé? Et puis, au cœur des discussions, il y a aussi la recherche sur les virus, les agents pathogènes, qui peut y avoir accès? Quels moyens moyens pour produire les tests, les traitements, les vaccins. Pour certaines ONG, l'Afrique est marginalisée. Or, dans le texte, il n'est pas vraiment question de contraindre les pays du Nord à transférer leurs technologies aux pays du Sud. Les pays africains devront surveiller de près la circulation des virus, mais pas sûr qu'ils aient des aides financières suffisantes. Et puis surtout, les scientifiques avaient alerté au moment du Covid sur la nécessité de prendre en compte la santé de manière globale. Les humains et leurs écosystèmes ne forment qu'un ensemble. Le Covid est une zoonose, une épidémie transmise par les animaux. Les virus peuvent être transmis aux hommes à cause de la déforestation ou d'une utilisation intensive de certaines terres. L'objectif est toujours d'avoir un texte le 27 mai à l'OMS, mais pas sûr que cet accord nous permette d'affronter une nouvelle pandémie.
Célia Quilleret, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter. À Mayotte, c'est l'épidémie de choléra qui suscite l'inquiétude. 65 cas recensés, dont une fillette de 3 ans décédée avant-hier, mais l'épidémie est sous contrôle, dit le ministre chargé de la Santé, Frédéric Valtou, qui est sur place. Elle est circonscrite à un seul foyer dans un quartier de Kongou grâce à une intervention, dit-il, des services de santé sur la vaccination et la prise en charge. Mais ça ne suffit pas, dit de son côté l'ONG Médecins du Monde, qui appelle à améliorer durablement les conditions à l'accès à l'eau et qui s'inquiète du retour des enfants à l'école lundi après les vacances scolaires, ce qui pourrait accélérer la propagation de la maladie. Le choléra de retour aussi au Kenya, même si là les raisons sont différentes. Dans ce pays de l'Afrique de l'Est, ce sont les très fortes pluies de ces dernières semaines, les inondations qui sont en cause. Écoutez à Nairobi le reportage d'Alban Tiroir.
44 cas de choléra ont été dénombrés par le ministère de la Santé dans le comté de la rivière Tana, une région de l'Est du Kenya, parmi les plus touchées par les inondations. La maladie est aujourd'hui source d'inquiétude pour George Wambugu. Il est en charge des activités médicales pour Médecins sans frontières au Kenya.
Les violentes inondations ont forcé des déplacements vers des camps. Ces camps sont surpeuplés. Les populations qui y vivent n'ont pas accès à une eau potable, certains n'ont pas accès à une nourriture saine, voire à pas de nourriture du tout. Certains camps ont de mauvaises installations sanitaires qui ne sont pas propres ou se retrouvent vite bloqués. Il y a peu d'endroits pour se laver les mains. Ces conditions prédisposent les populations à attraper le choléra.
L'inquiétude est particulièrement élevée dans les bidonvilles de Nairobi où plusieurs milliers de personnes vivant en zone inondable se sont retrouvées à la rue après avoir été évacuées, parfois de force, par les autorités qui y ont détruit des habitations. La ministre déléguée à la Santé a prévenu la situation pourrait devenir désastreuse si les cas de choléra ne sont pas contenus à temps, d'autant qu'une soixantaine d'établissements de santé ont été endommagés par les inondations à travers le pays, d'après le gouvernement. Nairobi, Alban Tiroir pour France Inter.
Que s'est-il passé hier dans le commissariat du 13e arrondissement de Paris? 3 enquêtes ont été ouvertes par le parquet après un échange de coups de feu, ce qui est extrêmement rare. 2 policiers ont été blessés par balle. Le pronostic vital de l'un d'entre eux était toujours engagé ce matin. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
L'auteur des tirs est, selon les premiers éléments de l'enquête, un homme de 32 ans que les policiers venaient d'interpeller car il venait de commettre une agression.
Oui, le récit commence hier soir dans un immeuble quai de la gare. Selon une source policière, un homme tape à toutes les portes sur le palier et agresse avec un cutter une femme de 73 ans qui ouvre sa porte. Elle est grièvement blessée. Les voisins appellent la police. À leur arrivée vers 22h, les agents doivent enfoncer la porte de l'appartement. La suite racontée ce matin sur France Info par le préfet de police Laurent Nunez.
Les équipages sont intervenus sur un homme qui était manifestement très excité. Ils ont dû utiliser le taser pour l'interpeller à plusieurs reprises. Et quand ils l'ont ramené au commissariat, il y a eu la fouille. Et puis, au moment où il soufflait à l'éthylotest, hein, puisqu'il avait l'air manifestement excité, peut-être sous l'emprise d'alcool, il a réussi à subtiliser l'arme d'un effectif et à en faire usage. Et il a été immédiatement neutralisé par les effectifs du commissariat.
Alors, la scène serait assez confuse, hein, selon une autre source policière. En attendant qu'un agent revienne avec l'éthylotest, 2 policiers étaient présents avec le suspect, qui s'est emparé d'une arme, a réussi à déverrouiller l'étui. Les 2 agents tentent de le maîtriser. L'un d'eux l'encercle avec ses bras, mais l'homme appuie sur la détente. La scène a été filmée par les caméras du commissariat. Les 2 policiers touchés sont âgés de 33 ans. Ils sont toujours hospitalisés et, vous l'avez dit, l'un d'eux reste avec son pronostic vital engagé ce midi. Le suspect reste également hospitalisé. Il était jusqu'ici inconnu de la police et de la justice. Aucun d'eux n'a encore pu être entendu.
Merci Sarah Guibaudot, service police-justice de France Inter. Elle a quitté Marseille hier, sa ville d'accueil, et entame son Tour de France. La flamme olympique sillonne le Var aujourd'hui, Saint-Raphaël, la Seine-sur-Mer avant Toulon en fin de journée. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Céline.
Alors vous l'avez pas perdu de vue, cette flamme olympique, depuis son arrivée à Marseille, et pour la première fois, elle a quitté les villes pour traverser un petit village, quelques rues à peine, ça s'appelle Flassan-sur-Issole.
Exactement, la flamme est restée une vingtaine de minutes dans les rues de ce petit village de 3600 habitants, un village typique du centre Var, avec une petite ambiance Tour de France. Le village est décoré pour l'occasion avec des t-shirts imprimés. C'est le premier petit village parcouru par la flamme, et comme à Marseille hier, eh bien ici à la campagne, c'est un succès populaire, énormément de monde pour applaudir les quatre porteurs seulement de ce village. Des anonymes du village et des villages alentours. Certains d'ailleurs dans le public ont fait de la route pour venir spécialement depuis les Alpes-Maritimes, me racontait à l'instant un papa et ses deux filles, parce qu'il n'y avait pas école ce matin et parce que ses filles étudient la flamme olympique à l'école en ce moment. Donc beaucoup de profils différents, beaucoup de monde et beaucoup de soleil aussi, météo idéal qui accompagne la flamme depuis son arrivée en France.
Alors désormais Nicolas, les étapes sont organisées à l'échelle du département jusqu'à l'arrivée à Paris. C'est donc tout le Var qui est traversé aujourd'hui.
Oui, pour vous donner une petite idée, la flamme est partie de Saint-Raphaël ce matin. Elle est passée déjà par hier. C'est pas la porte à côté. Alors je vous rassure, il y a plusieurs flammes dans le dispositif. Brignoles également a été parcourue, arrivée, vous l'avez dit, à Toulon ce soir. Beaucoup plus d'anonymes dans ce cortège parmi les porteurs qu'hier à Marseille, forcément. Mais des personnalités quand même. Marielle Guachel, double championne olympique de ski alpin, aperçue ce matin. C'était sur la corniche de Saint-Raphaël. Et puis tout à l'heure à Toulon, Richard Virenque, l'ancien cycliste, portera la flamme également. Et c'est l'acteur Charles Berling qui allumera le chaudron sur la place de l'île à la Liberté à Toulon. Charles Berling qui dirige un théâtre dans la préfecture du Var.
Merci Nicolas Perronnet, en direct du Var avec la flamme olympique. Beaucoup de monde, donc vous le disiez, sur le parcours de cette flamme, même si c'est pas forcément facile de se déplacer aujourd'hui dans le Var en raison d'une grève des chauffeurs de bus qui ont choisi cette journée pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficile, notamment depuis la reprise en main du réseau par la RATP l'an dernier. Écoutez, Ramsi Anchi, c'est le représentant syndical de l'UNSA.
Ce que j'ai dit à la direction, pour nous, c'est vraiment à contre-cœur, vraiment de ne pas avoir participé justement à cet événement. C'est nous, quand on aime le transport, c'est des événements où on aime participer et transporter les gens. Mais malheureusement, aujourd'hui, le 10 mai, c'était la seule façon de nous faire entendre. On n'a pas eu le choix. Cette année, on a beaucoup de gens qui partent en maladie, on a beaucoup de démissions. Dans l'ensemble de l'entreprise, après voilà, c'est 14% d'absentéisme, c'est énorme, c'est énorme. Cette année, on a eu des gens qui sont partis en burn-out, donc, et qui évoquent justement des charges de travail trop importantes. Les battements au terminus, donc il n'y a plus de temps de pause. Vous roulez avec du matériel qui a plus de 15 ans, qui tombe de plus en plus en panne, et cette pression-là retombe justement sur le conducteur. Donc on n'a pas eu le choix.
Ramsi Anchi, représentant syndical de l'UNSA, au micro de Maxime Teps. Et dans les prochains jours, la flamme va prendre la direction de Manosque, d'Arles, de Montpellier, avant de partir pour la Corse. Relais prévu mardi prochain à Bastia. Et il y en aura beaucoup d'autres, des étapes avant l'arrivée à Paris, le 26 juillet prochain. Alors parlons de Paris, justement, puisqu'on commence à en savoir plus sur les périmètres de sécurité, les restrictions de circulation avant et pendant les Jeux. Pour se déplacer dans certaines zones, il va falloir obtenir un QR code et donc en faire la demande sur une plateforme numérique qui sera mise en ligne aujourd'hui. Les inscriptions seront ouvertes à partir de lundi. Alors qui sera concerné? C'est la grande question. On va tout comprendre avec vous, Emmanuel Leclerc, premier cas de figure. Comment ça va se passer avant la compétition?
Entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna à Paris, c'est-à-dire sur plus de 6 km, on sait qu'à partir du 18 juillet, soit une semaine avant le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture, toute personne à pied, en vélo, en trottinette, qui voudra se rendre sur les bords de Seine des deux côtés, toute personne qui voudra se rendre à l'intérieur des immeubles de la première rangée qui ont un visuel direct sur la Seine, devra être munie de ce QR code et de ses papiers d'identité, bien sûr. Toute personne voulant se rendre au travail situé dans ce périmètre, aller au restaurant, voulant accéder à son hôtel, récupérer un appart en location, circulation. Ce qui est sûr, c'est que pour circuler en voiture dans cette zone ultra rouge, ce sera quasiment interdit, sauf pour quelques cas de dérogation pour les riverains ou les professionnels, les livraisons. Par contre, on sait qu'il y aura plusieurs axes traversant la Seine durant cette même période de 8 jours précédant la cérémonie et qui ne seront pas filtrés, pas besoin de QR code. Ces axes, ces 5 ponts seront fermés, évidemment, le soir même de la cérémonie, sauf pour les pompiers, les ambulances et les forces de l'ordre.
Alors, deuxième cas, Emmanuel, ça concerne cette fois la période des Jeux. Comment ça va se passer?
Alors là, ce seront des périmètres beaucoup plus réduits autour de chaque site olympique et paralympique où il faudra des QR codes, des laissez-passer numériques, mais uniquement pour les véhicules motorisés qui voudraient circuler, venir travailler, là encore, livrer dans ces zones. Et là, c'est valable pour tous les sites olympiques, pas seulement dans Paris. En revanche, on pourra circuler librement sans QR code, à pied, en vélo ou en trottinette. La délivrance de ce QR code entraînera automatiquement une enquête administrative en lien avec ces périmètres de protection antiterroriste.
Merci Emmanuel Leclerc. On attend donc dans la journée la mise en ligne de cette plateforme pour obtenir le QR code. En attendant les complications de circulation, voilà une nouvelle qui va faciliter la vie des automobilistes en région parisienne. Le tronçon de l'A13, fermé depuis 3 semaines entre Vaucresson et Paris, a rouvert ce matin uniquement en direction de Paris, dans l'autre sens, vers la Normandie. Il va falloir être patient. La fissure apparue sur la chaussée n'est pas complètement réparée. C'est ce qu'explique Jacques Sally, c'est le directeur de la DIRIF, la Direction des routes d'Île-de-France.
La chaussée dans le sens vers la province, effectivement, nécessite beaucoup plus de travaux de remise en état. Alors, pas vraiment pour des questions de chaussée elle-même, mais plutôt pour un gros ouvrage d'assainissement qui se trouve sous la chaussée, qui a été très fortement endommagé, qui est fortement fissuré. Et là, on ne peut pas se contenter simplement de refaire la chaussée. Il faut qu'on creuse très très profond, jusqu'à 5 mètres de profondeur, pour pouvoir changer cet ouvrage d'assainissement, qui est un ouvrage assez important, hein, puisqu'il fait plus de 2 mètres de diamètre. Et ça, c'est des travaux assez lourds et assez conséquents qu'il faut qu'on engage. Alors, quand je dis « on », c'est d'ailleurs le conseil départemental qui est maître d'ouvrage de cet ouvrage d'assainissement qui doit faire ses travaux pour que nous, ensuite, on puisse faire nos travaux de réparation de chaussée. Donc ça prend un petit peu de temps. On n'a pas de délai ultra précis, mais on pressent que ça sera probablement au cours de la deuxième quinzaine de juin, voire fin juin.
Jacques Sally, directeur de la DIRIF, la Direction des routes d'Île-de-France, invité de France Bleu Paris.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Au Proche-Orient, 2 jours de pourparlers, un nouvel échec. Les représentants d'Israël et du Hamas ont quitté le Caire et la table des négociations sans se mettre d'accord. La balle est dans le camp d'Israël, dit le Hamas, qui avait accepté la proposition de trêve faite par les pays médiateurs. L'Égypte appelle les deux camps à faire preuve de davantage de flexibilité pour mettre fin, je cite, à la tragédie humanitaire. Selon les Nations Unies, plus de 100 000 personnes maintenant ont fui la ville de Rafah sous la menace d'un assaut de l'armée israélienne et la distribution d'aide humanitaire est toujours très difficile. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Comme l'accès par la route se fait au compte-gouttes, la communauté internationale avait décidé de larguer de l'aide depuis des avions, mais le Hamas appelle à cesser cette pratique très dangereuse. 2 nouveaux morts hier, c'est un entrepôt qui s'est effondré sous le poids d'un colis. Au total, 21 personnes sont mortes suite à ces parachutages.
Oui, et vous vous souvenez peut-être de ces images, il y a presque 2 mois, sur les réseaux sociaux, on voyait ces parachutes noirs dans le ciel de Gaza, lancés par les Français, les Américains, les Jordaniens, qui avaient provoqué des mouvements de foule avec des bousculades sur la plage et des récupérations risquées en mer. Depuis le début, ce mode de distribution est critiqué. Les ONG considèrent que c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins, une mauvaise réponse aux restrictions imposées par l'armée israélienne à l'entrée des camions. Mais aujourd'hui, l'aide humanitaire est à nouveau déstabilisée. Les 2 portes du sud sont devenues inaccessibles après l'opération militaire sur Rafah. Le poste frontière israélien de Kerem Shalom est ouvert, dit l'armée, mais la sécurité n'est pas garantie à l'intérieur de la bande de Gaza. Ni les camions, ni les personnels humanitaires ne peuvent passer. L'entrée des camions se fait uniquement par le nord à Erez. Cet accès devrait être complété d'ici quelques jours par le port flottant américain. On aurait donc une inversion de la situation humanitaire, avec un accès diversifié au nord et un étranglement au sud.
Merci Étienne Monin pour toutes ces précisions. La guerre à Gaza qui s'invite dans le débat public partout en Europe, aux États-Unis, on l'a vu avec les mobilisations d'étudiants, notamment sur les campus, et cela pourrait bien faire bouger les lignes électorales. C'est en tout cas ce qui s'est passé au Royaume-Uni où des élections locales étaient organisées la semaine dernière. Et on constate, Laura Calmus, vous êtes à Londres, une inflexion du vote des Britanniques de confession musulmane, traditionnellement partisans partisans des travaillistes. Cette fois, ils ont massivement voté pour des candidats indépendants, des candidats locaux, qui avaient mis la cause palestinienne au cœur de leur campagne.
Nous ne serons pas réduits au silence. Nous élèverons la voix de Gaza. Nous élèverons la voix de la Palestine.
Voici les mots prononcés par Mohsin Ali lorsqu'il apprend jeudi dernier son élection à Gipton et Har Hills, deux quartiers de Leeds au nord de l'Angleterre. Représentant le Green Party, il a rassemblé plus de 3000 votes, 747 de plus que son rival travailliste. Un élu chargé de diverses questions locales, mais qui, comme une quarantaine d'autres élus locaux, a centré sa campagne autour d'une guerre qui se trouve à près de 5000 kilomètres, encourageant Keir Starmer, le chef des travaillistes, à adresser un mot à ceux qui ont délaissé son parti à cause de sa position sur Gaza.
J'ai écouté et je suis déterminé à répondre à vos préoccupations et à regagner votre respect et votre confiance à l'avenir.
Dans les zones où la population musulmane dépasse 20%, le parti travailliste a perdu près de 18% de votes. Et pour le porte-parole du Labour Muslim Network, les 4 millions de musulmans du pays attendent de nouvelles promesses.
Nous avons tellement de travail à faire pour regagner la confiance des électeurs musulmans. Et cela commence par demander un embargo immédiat sur les armes à destination d'Israël.
Le parti travailliste est toutefois favori pour les élections législatives. Selon un dernier sondage, il a 30 points d'avance par rapport au parti conservateur au pouvoir.
Laurent Calmus, depuis Londres pour France Inter. En Ukraine, l'armée russe a lancé une offensive terrestre dans la région de Kharkiv et tenté de percer les lignes de défense. C'est le gouvernement ukrainien qui l'annonce. L'Ukraine s'inquiétait depuis plusieurs semaine d'une potentielle nouvelle offensive dans cette zone qui avait été occupée puis libérée en 2022. Les localités frontalières dans cette région de Kharkiv vont être évacuées. C'est ce que disent les responsables des autorités ukrainiennes. Éric Dumont-Moretti vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux. L'ancien juge d'instruction, Renaud Van Muyenbeek, est mort. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Bonjour. Nous avez rejoint pour évoquer la disparition de ce grand nom de la magistrature, un immense service écrit même le garde des Sceaux.
Oui, et c'était vraiment l'une des figures du juge d'instruction en France. Il s'était notamment fait connaître par sa conduite des enquêtes politico-financières les plus complexes et les plus sensibles, de l'affaire Urba à la fin des années 80 qui a impliqué le Parti Socialiste, à l'affaire Cahuzac en passant par l'affaire Clearstream ou le volet financier de l'attentat de Karachi. Un juge toujours discret mais qui s'était engagé publiquement dans la lutte contre les paradis fiscaux et judiciaire avec l'appel de Genève en 1996. À ce sujet, en 2008, il était d'ailleurs venu sur France Inter dire un peu sa désillusion. Il estimait qu'il n'y avait en réalité aucune volonté politique d'éradiquer sérieusement les paradis fiscaux. Voilà, Renaud Van Rumbeck qui avait pris sa retraite de la magistrature il y a quelques années.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Sarah Guibaudot, une grande exposition sur la mémoire de l'esclavage sera organisée en 2026 à l'occasion du 25e anniversaire de la loi sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est ce qu'annonce ce matin Gabriel Attal depuis La Rochelle, où le Premier ministre présidait la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le rôle de l'État français, dit-il, dans cette sombre page de l'histoire ne doit pas être oublié.
Oui, la France des rois et de l'empereur. Oui, le pays où s'émerveillaient et où s'éveillaient les Lumières a nourri l'esclavage pendant des décennies. Et ici même, pendant deux siècles, à travers les tours de La Rochelle, à 447 reprises, des expéditions ont pris le large, scellant les destins d'au moins 160 000 femmes et hommes venus d'Afrique. Le destin de 160 000 femmes et hommes parmi les millions de victimes de la traite et de l'esclavage. Le dire, le reconnaître, ce n'est pas s'affaiblir. Au contraire, c'est grandir. Ouvrir les yeux sur le passé est toujours la meilleure manière de bâtir l'avenir. Toujours la meilleure manière de construire la concorde et la paix.
Gabriel Attal, lors de son discours tout à l'heure, depuis La Rochelle, Brest, face aux plus grands clubs européens au sein de la Ligue des Champions, ce scénario paraissait irréaliste il y a encore quelques années et pourtant ça pourrait devenir réalité. Le stade brestois a réalisé en effet une excellente saison, troisième de la Ligue 1, déjà assuré de participer à une Coupe d'Europe à la saison prochaine. Et ça pourrait être la Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse. Cela va dépendre de leur match ce soir face à Reims et du résultat de l'autre affiche de la soirée entre Nice et Le Havre. Autant dire que les supporters sont à fond derrière leur club. Reportage au pénalty, le bar situé près du Stade de Brest, signé Xavier Monferrand.
Stade Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, Coupe d'Europe.
Corinne Lemadec connaît la chanson. C'est le tube du moment à Brest et la patronne du bar Le Pénalty n'en revient toujours pas.
Je réalise pas encore. C'est magique, hein. Brest est magique. Avant c'était Paris, mais maintenant c'est Brest.
Devant le bar, une pinte de bière à la main, Kevin et David refont la saison du Stade Brestois et rêvent en grand.
Vu l'objectif de début de saison qui était juste de se maintenir et de se dire que finalement la Ligue Europa c'est pas mal mais la Ligue des Champions c'est mieux, bon ça aurait pu ressembler à une blague au début de saison.
On vise le Real, on vise le City, tous les gros, ceux qu'on regarde le mercredi, le mardi à la télé. Le retour d'Mbappé peut-être hein, à Francis Leblay contre Brendan Charlonnet. Allez, on y croit.
Quelle que soit la Coupe d'Europe, les Brestois espèrent surtout pouvoir la disputer à Francis Leblay et particulièrement Corinne, la patronne du pénalty.
Ça serait un très beau plus, faut l'avouer. Hein, on peut dire ce qu'on veut, mais ça va faire des journées longues et dures, mais ça sera sympa. Maintenant, on fera comme l'UEFA décidé. Mais ce sera retransmis au pénalty, de toute façon, on les suivra jusqu'au bout.
Le Stade Brestois a demandé une dérogation, les supporters vont être vite fixés. L'UEFA doit rendre sa décision d'ici quelques jours.
Voilà donc pour ce reportage de Xavier Monferrand avant le match. Stade Brestois face à Reims, c'est à 21h et les supporters organisent un grand cortège entre le centre-ville et le stade. Et ça, ce sera à partir de 18h. 13h26, restez avec nous sur France Inter. Dans la prochaine demi-heure, on va retrouver Sébastien Léas de Météo France pour les prévisions de ce long week-end de l'Ascension. On va ensuite accueillir notre invitée, c'est l'autrice et la metteuse en scène Naïla Navidi, dont la pièce 4211 km vient d'être récompensée de 2 Molières. Cela raconte l'histoire de sa famille, de ses parents iraniens, militants politiques, réfugiés en France dans les années 80. C'est une pièce sur la douleur de l'exil, sur la famille, la transmission. Une pièce sur le courage aussi de ceux qui rêvent d'un Iran libre. Et ça résonne évidemment avec l'actualité. Elle va nous raconter tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Une semaine dans leur vie, sur les coulisses de la filière photovoltaïque française. On suit la vie d'un panneau solaire depuis lundi. Et dans l'épisode aujourd'hui, on va parler recyclage, car des entreprises sont désormais spécialisées dans la récupération des matériaux précieux qui composent ces panneaux. Et c'est un reportage à suivre de Delphine Simon. 13h50, c'est la France. Bonjour Jean-Philippe Leclerc.
Bonjour.
Et vous nous emmenez à Cannes aujourd'hui.
Oui, on va parler de Zinedine Zidane et de Leonardo DiCaprio.
Et bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
Pour C'est une chanson, qui est à votre micro aujourd'hui Frédéric?
Eh bien, nous irons à la rencontre de la pianiste Shani Di Luca, grande pianiste, qui nous parlera d'une immense chanteuse, Juliette Gréco.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Lorsque Marie Curie commença ses recherches, on guérissait moins de 10% des patients atteints de cancer. Aujourd'hui, c'est près de 60%. Il faut aller plus loin. Les chercheurs de l'Institut Curie ont besoin de vous. Chacun de vos dons bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière. Donnez dès maintenant sur curie.fr.
France 2. Le retour du plus grand show musical au monde, l'Eurovision. Cette année, Slimane portera les couleurs de la France lors de la grande finale de l'Eurovision avec sa chanson « Mon amour ». Demain soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
France Inter, partenaire des Francofolies de La Rochelle du 10 au 14 juillet. Plus de 100 concerts et rencontres au bord de la mer. Avec Sting, Jean-Michel Jarre, Zao de Sagazan, Sofiane Pamart, Luigi, Phoenix, Charlotte Cardin, Yamé, Étienne Dao, Alain Souchon et bien d'autres. Les Francofolies de La Rochelle avec France Télévisions
et le Crédit Mutuel.
Un événement France Inter.
13h28 sur France Inter, tout de suite la météo.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et c'est un après-midi très largement ensoleillé qui nous attend.
Oui, c'est un soleil généreux qui va régner sur l'ensemble du pays. Le ciel sera même tout bleu, de la Nouvelle-Aquitaine au Pays de la Loire, de l'Occitanie au sud du bassin parisien et de la Provence à la Bourgogne-Franche-Comté, à l'Alsace et à la Lorraine. Entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et les frontières belges, le soleil sera agrémenté d'un léger voile de nuages élevés. Quelques cumulus vont aussi fleurir en montagne. Ces développements nuageux seront plus épais sur les Alpes et les hauteurs sud de la Corse, pouvant aller jusqu'à l'averse, voire à l'orage. Mais les éclaircies resteront quand même largement belles. La douceur, elle, s'accentue. Il va même faire chaud cet après-midi. Certaines villes pourraient connaître leur premier jour de chaleur de l'année avec plus de 25 degrés. On attend 23 degrés à Lille et Montpellier, 24 degrés à Paris et Strasbourg, 25 degrés pour Marseille et pour Lyon, 27 à Bordeaux et Toulouse et jusqu'à 29 degrés du côté de Pau.
D'un mot, la suite du week-end ?
Eh bien, samedi sera encore plus chaud et encore plus ensoleillé. En revanche, une dégradation pluvieuse et orageuse va s'amorcer par le sud-ouest durant la nuit pour se propager sur une large moitié ouest dimanche. L'est et le nord de la Seine garderont de belles éclaircies et surtout des températures très douces.
Et ben voilà, on sait tout grâce à vous. Merci Sébastien Léas de Météo France.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
La pièce s'appelle 4211 km, comme la distance qui sépare à vol d'oiseau Paris et Téhéran. Et c'est l'une des créations les plus récompensées cette année à la cérémonie des Molières qui a eu lieu en début de semaine. Molière du théâtre privé, Molière de la révélation féminine pour cette pièce qui raconte l'histoire de Mina et Feridoun, deux amoureux qui rêvaient de liberté et de démocratie dans l'Iran des années 70 et qui ont dû choisir l'exil face aux persécutions. C'est en France qu'ils se sont installés, en France qu'ils ont donné naissance à leur fille, Yalda, et c'est elle qui raconte sur scène leur histoire.
Je m'appelle Yalda Faradi. C'est grâce à ces 5 lettres que je sais d'où je viens. Je suis née à Paris d'un père et d'une mère iranien réfugiés politiques, convaincus jusqu'à mes 10 ans que la France, ce n'était qu'un pays d'exil transitoire. Mais j'ai aussi grandi en France et je l'aime. Je suis plusieurs.
Bonjour Ilan Avidi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vous qui avez écrit et mis en scène cette pièce 4211 km, l'histoire de Yalda. C'est votre histoire. Est-ce que vous vous êtes toujours dit que vous alliez la raconter un jour ?
En tout cas, je me suis toujours posé la question de savoir comment j'allais faire pour laisser une trace de l'histoire de mes parents et de tous ceux qui étaient exilés, sont arrivés à peu près à la même période, parce que j'avais l'impression qu'en fait, cette histoire allait être invisibilisée, parce que c'est des personnes qui n'avaient pas des voix, qui portaient.
Vous aviez la peur de l'oubli ?
Oui, complètement. Mmh. Ouais.
Dans ce spectacle, on mêle les lieux, les époques. On suit la jeunesse de vos parents à Téhéran, le départ, l'arrivée en France, votre jeunesse à vous, en région parisienne, et puis le choc aussi pour vous de devenir mère et de transmettre à votre tour tout cet héritage qui peut être un peu lourd aussi. À qui elle s'adresse finalement cette pièce ? Est-ce qu'elle s'adresse à vos parents, à vos enfants ou bien à tous les autres pour leur faire comprendre ce que vous avez vécu ?
Bah, un peu à toutes les personnes que vous avez dit. Au début, effectivement, je pars de mon intime, donc il y a une volonté de transmettre ça à mes enfants au départ, et puis à rendre hommage à mes parents, mais il y a une volonté aussi de ma part, et c'était voulu, de ne pas mettre les noms en fait, qui sont ni le mien, ni celui de mes parents, parce qu'en fait, j'ai grandi dans une communauté où tout le monde a des histoires similaires et qui parfois sont bien plus tragiques que les miennes. Moi, mes parents sont vivants, d'autres ont perdu leur père, leur mère, leur frère, enfin, et du coup, il y avait une volonté de ma part de créer en tout cas de l'universalisme déjà autour de la communauté iranienne. Et puis en fait au moment où j'écris cette pièce, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, moi je pense que je suis extrêmement j'ai très peur de ce qui se passe aujourd'hui, de la montée des extrêmes, de cette forme de démocratisation et de racisme ordinaire qui prend forme ici. Et donc du coup je pense qu'il y avait une urgence inconsciente aussi de parler aux nouvelles générations. La loi immigration, par exemple, m'a beaucoup heurtée. Et du coup, je voulais leur dire aussi que derrière tout ça, il y avait une forme de fierté. Et quelles sont les histoires ? Je voulais rendre visible l'invisible des histoires de nos parents.
C'est une histoire qui résonne évidemment, vous le disiez, avec l'actualité ici et là-bas en Iran. On va y revenir. Je voulais d'abord savoir si c'était une réconciliation aussi, cette pièce, une réconciliation avec vous-même, avec vos parents, parce qu'on sent aussi tout au long de cette histoire, tout au long de cette pièce, que vous leur en avez parfois voulu, de vous avoir laissé dans un entre-deux, à la fois de grandir en France, mais avec toujours l'espoir, l'idée, l'illusion que vous alliez repartir en Iran.
Je dirais pas que c'est une réconciliation parce que effectivement une période de ma vie et particulièrement l'adolescente, et je trouve que c'est extrêmement nécessaire de le raconter justement pour les personnes qui vivent ces périodes-là, parfois un sentiment de honte, parfois un sentiment de colère d'être née dans une famille qui a son héritage et son lot de traumas, mais non, en fait c'est pas vraiment une réconciliation, c'est vraiment, je pense, un cri qui était en moi et qui avait besoin de sortir, et c'était pas forcément que mon cri. Parfois j'ai l'impression qu'il y a l'écho des cris de beaucoup de gens, de personnes qui ne sont plus là. Parfois j'ai l'impression de verser peut-être les larmes de mes parents qui n'ont pas versé, ou en tout cas de leur entourage. Et il y a aussi un cri extrêmement politique qui est celui que je reçois, en fait, qu'on n'entend pas de toute cette jeunesse iranienne qui est en prison, dans la prison d'Evin en particulier, et que j'ai l'impression d'entendre et résonner dans ma tête depuis bien longtemps.
On va en parler de ces cris, justement, et notamment avec quelqu'un que vous connaissez bien, et pour cause, puisque c'est elle que vous avez choisie pour interpréter le personnage de Yalda, Olivia Pavlougram. Vous êtes aussi en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour parler de cette pièce. Et bravo, puisque vous avez obtenu le Molière de la révélation féminine pour la formidable interprétation qui est la vôtre. Qu'est-ce que vous diriez de ce personnage, vous ? Comment vous l'avez accueilli ? Comment vous l'avez incarné ?
À bras ouverts, je me sens très très chanceuse d'avoir été choisie par Ayla, d'avoir pu partager ses mots, ses pensées, sa vie, d'avoir été le vecteur de toutes ces choses. Je me sens très fière et vraiment je porte cette histoire depuis 3 ans et avec la plus grande fierté.
Est-ce que vous la jouez à plusieurs âges de sa vie ? C'est d'abord une enfant qui comprend pas tout, à toutes ces histoires politiques, à toutes ces histoires d'exil. C'est une adolescente ensuite qui est en colère. C'est une femme enfin qui tente de se construire avec tout ça. Fallait naviguer aussi entre ces différentes périodes.
Oui, tout à fait. Vraiment, dès la deuxième scène, on a vraiment la naissance de mon personnage. Elle est bébé, puis petite enfant, on la voit dans le salon apprendre le français, enfin plein de choses. Et oui, enfin, elle arrive à être aussi mère, elle, à son tour. Et on voit la naissance de son enfant. Et oui, elle parcourt toutes ces années. Et ouais, c'est à travers son regard, en fait, que l'histoire de ses parents prend forme. Et oui, c'est son prisme à elle, sur tout cet héritage.
Alors vous, je crois, et dites-moi si je me trompe ou si je caricature votre histoire familiale, Olivia Pavlougram, je crois que vous avez un père grec et une mère néo-zélandaise, donc rien à voir avec l'Iran, mais peut-être que ça vous parle aussi, c'est cette histoire de double identité, de traditions qui s'enrichissent les unes des autres.
Oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'était une des premières choses qui m'a émue en lisant le texte. C'était l'importance du nom de famille. Moi, je me suis moi aussi battue pour avoir les deux noms, celui de mon père et de ma mère, parce que pendant longtemps, je comprenais pas qu'on pouvait être moitié-moitié de quelque chose. Je me sens 100% grecque, 100% néo-zélandaise et 100% française, alors que voilà, j'ai pas de sang français et je suis jamais allée en Nouvelle-Zélande, mais je me sens entièrement de toutes ces choses. Et oui, je me suis trouvée un gros point en commun, entre autres, dans cette pièce.
Alors cette histoire de nom de famille, c'est intéressant, Ayla Navidi, parce que c'est par ça que vous faites commencer votre pièce, finalement, quand votre personnage devient mère et découvre que le papa a oublié d'ajouter le nom de la maman à l'identité de l'enfant, et que c'est ça qui provoque votre colère et votre besoin de tout raconter, ce côté moitié-moitié, et le besoin de transmettre le nom, c'était vraiment quelque chose qui était pour vous très fort.
Oui, un nom, c'est un symbole, c'est quelque chose qu'on porte toute sa vie et c'est quelque chose qu'on lègue aussi à notre tour. Et c'est vrai que en étant en France, finalement, quand on est issu d'une immigration, il reste plus grand-chose, si ce n'est ce nom-là et nos traditions à nous. Donc au moment où Yalda découvre que son conjoint n'a pas donné son nom, c'est tout un héritage et c'est tout cet oubli qu'elle perçoit et qu'il la met dans un état de panique parce qu'elle a l'impression que bah, du coup ses enfants ou les petits-enfants ne vont pas l'avoir. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi nous ici en France, que ce soit par rapport à la Seconde Guerre mondiale, cette nécessité de se dire que de génération en génération, c'est pas juste quelque chose d'intime aussi, c'est aussi quelque chose de très politique, c'est-à-dire que moi, les craintes que je peux avoir, c'est que on refasse les mêmes erreurs. Il y a un combat pour la liberté derrière, et oublier ce combat-là, c'est la possibilité demain, en Iran ou ailleurs, de réitérer les mêmes erreurs. Et garder ça, c'est aussi une façon de dire regardez ce qui s'est passé avant et comment est-ce qu'on doit se construire par rapport à ça.
Il y a la question du nom, il y a la question du prénom aussi. Il y a une scène qu'on pourrait presque qualifier de cocasse, mais on imagine que vous ne l'avez pas forcément bien vécue, si elle s'est passée comme vous le racontez dans la pièce ou lors de la procédure de naturalisation. Quand vous voulez devenir française, on vous propose de prendre un prénom français.
Complètement. Ça, pour le coup, c'est vraiment arrivé. Il se trouve que là, Yalda, on lui propose de s'appeler Yolande. Et dans mon cas, je m'appelle Ayla et on m'a proposé de m'appeler Aline. Oui. Et je trouve que ça cristallisait vraiment quelque chose de très important, des mots de notre société. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avoir une double identité? Comment c'est toute la question. Moi, j'ai du mal avec le terme assimilation aujourd'hui. Je me dis que oui, je suis extrêmement fière et on a eu, il se trouve, un accueil incroyable de la France. Et ça, c'est quelque chose qui est important à dire. Néanmoins, il faut aussi, dans l'intégration des migrants, des réfugiés, d'accepter aussi qu'ils arrivent avec un bagage culturel et que c'est une richesse et non pas quelque chose qu'il faut voir comme étant un point faible ou une difficulté d'intégration en France.
Alors, lors de la cérémonie des Molières, vous avez lancé un appel à la mobilisation pour la libération de Tomash Salehi, qui est ce rappeur iranien très engagé dans le mouvement de contestation, qui a été condamné à mort. Avant d'en parler, je voudrais qu'on l'écoute un instant.
J'ai été torturé. Après cette arrestation, ils m'ont cassé la main et frappé le visage. J'ai essayé de me protéger avec les mains, ils m'ont brisé les doigts.
Hélène Avili, c'était important de dédier ce spectacle à lui, à ceux, à celles qui se battent aujourd'hui en Iran.
C'était une nécessité. En fait, il faut savoir que parler de Tomash Salehi à ce moment-là de la cérémonie, pour moi, c'est aussi parler de tous les autres prisonniers politiques. Tomash, il est aujourd'hui un symbole du mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est un artiste qui a soutenu ce mouvement-là, qui a appelé à l'éveil, qui a appelé les gens à sortir dans la rue, il y a plein de vidéos où on le voit tenir des discours extrêmement engagés et politiques. Et du coup, parler de lui en tant qu'artiste, c'est aussi du coup mettre en lumière tout ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Là, la vidéo, l'extrait que vous avez passé raconte quand même le courage de ce rappeur. C'est-à-dire que quand il raconte ça, il a été libéré sous caution pour quelques jours. Et il prend la parole publiquement avec une vidéo. Et quelques jours plus tard, il l'arrête à nouveau. Et il le sait, ça. Mais malgré tout, ça nous oblige. Mmh. C'est-à-dire que lui, il est face à la mort. Et en connaissant le risque qu'il prend, il le fait parce qu'il a envie de révéler au monde ce qui est en train de se passer.
Oui,
il a envie de dire, voilà la réalité de la prison d'Evin. Donc, nous, en tant qu'artistes, on se doit de faire résonner ces voix le plus fortement possible en France.
On est à un an et demi, un peu plus, du début de ce mouvement de contestation, hein, après la mort de Mahsa Amini, qui a entraîné un mouvement de révolte, notamment des femmes. Nous, on a le sentiment ici d'avoir découvert, ou peut-être redécouvert, le courage de ces Iraniennes, de ces Iraniens qui se battent pour la liberté. Vous savez sans doute depuis longtemps quel est leur combat et leur courage. Est-ce que vous avez le sentiment de vous dire, enfin, ça y est, on en parle, on les écoute, on les entend?
Oui, on se le dit. Après, je trouve que ce qui est d'extrêmement beau et de puissant dans ce mouvement-là, et qui a certainement fédéré aussi, c'est vraiment ces mots, femme, vie, liberté. Je trouve que c'est un modèle qui résonne en nous aussi extrêmement fort avec tout ce qui se passe, avec le mouvement MeToo. C'est que cette révolution-là, ce sont des femmes qui lancent un mouvement et qui sont soutenues par les hommes. Et pour moi, c'est ça, en fait, être humaniste et féministe. C'est main dans la main, on défend les droits de l'homme ensemble, qu'il soit femme ou homme. Et effectivement, ça fait des années que l'Iran est sous cloche et que pour des raisons parfois économiques, on a laissé entendre, et c'est vrai, il y a eu toujours des vagues de répression plus fortes parce qu'ils fonctionnent comme ça. Il y a des moments où ils vont un petit peu lâcher, puis il y a des moments, et en ce moment c'est le cas, la répression est extrêmement forte, ils arrêtent de plus en plus de femmes, ils essaient de réintégrer le voile là où il est tombé, parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça, et c'est comme ça qu'ils arrivent à contrôler en fait le pays. Mais la réalité c'est que depuis 44 ans, les femmes et les hommes se battent et elles sont toujours emprisonnées, torturées, exécutées.
Olivia Pavlougram, je voulais vous entendre aussi là-dessus, parce que Elana Vidi, vous parliez des femmes, et c'est vrai que c'est aussi ça qui ressort de cette pièce. C'est une pièce où les voix de femmes sont très fortes. J'allais utiliser le mot féministe. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, vous, que c'était une pièce féministe, Olivia Pavlougram.
Bah je rejoins Ayla dans le sens où on parle de main dans la main, on parle d'une voix de femme parce qu'on a le regard d'une fille, on a sa mère aussi qui est très présente, son père aussi, mais c'est une transmission ensuite. Ayla a choisi aussi que Yalda ait une fille, Marjane, et que la transmission du nom de famille, enfin, qu'on ait envie que celle de la femme aussi pas, soit transmise à sa fille. Donc oui, c'est féministe, mais c'est humaniste, c'est pour en mettre en lumière tout ça.
Et ça marche, je vous assure, ça marche. Je voudrais vous transmettre, avant de vous remercier, ce message d'Olivier, auditeur de France Inter, qui nous dit « J'ai vu cette pièce il y a 3 semaines, elle m'a beaucoup parlé. Je voudrais remercier cette metteuse en scène, car des fois je me sens impuissant face à la situation du pays. » Voilà, ça parle. Et ça parle à tous aussi. La pièce 4211 kilomètres, pardonnez-moi, je vais le donner correctement, sera donc rejouée au studio Marigny à Paris à partir du 12 septembre prochain. Merci à toutes les deux. Elana Vidi, vous êtes l'autrice, la metteur en scène de cette pièce, et Olivia Pavlougram, vous êtes la comédienne. Merci et bravo. J'invite tout le monde à aller voir cette pièce qui est formidable. Merci, bonne journée. Merci. Et place maintenant à notre feuilleton, une semaine dans leur vie. C'est la vie d'un panneau solaire que l'on suit depuis lundi, des panneaux de plus en plus nombreux en France, même s'ils viennent souvent de Chine, le principal producteur mondial. Et pour ce dernier épisode, on va se demander ce que deviennent les panneaux photovoltaïques en fin de vie, car désormais le recyclage est possible. Delphine Simon s'est rendue à La Mure, près de Grenoble, dans l'usine Rosy Solar, où l'on récupère les métaux précieux pour les recycler.
Cette usine, c'est la première usine dans le monde qui est capable de récupérer ces matériaux précieux qui sont dans les panneaux photovoltaïques, que sont le silicium, l'argent et le cuivre. En face, c'est l'Obiou, c'est le sommet de la chaîne du Dévoluy. C'est une magnifique montagne, qui est le symbole d'ailleurs du logo de Rosy Alpes, notre usine ici. Alors, je m'appelle Antoine Chalot, je suis directeur opérationnel de la société Rosy. C'est une première mondiale et c'est fait à proximité de Grenoble, à La Mure. On a un personnel qualifié du milieu industriel. Quasiment tous les employés habitent aujourd'hui à moins de 10 minutes de l'usine. Et ça, c'est un vrai avantage parce que c'est des personnes qui cherchent à travailler dans des activités tournées vers le futur. Et l'économie circulaire, les énergies renouvelables, c'est quelque chose qui est porteur. Et donc, on a pu trouver tous les profils qui nous intéressaient à proximité. Et donc, on fait partie un peu du plan de réindustrialisation du plateau Matézin en général où on est situé. La fin de vie des panneaux photovoltaïques, en fait, c'est financé par l'achat des nouveaux panneaux. Quand vous installez des panneaux neufs chez vous, vous payez une éco-contribution. C'est 50 centimes à peu près par panneau installé. On a commencé il y a tout juste un an et c'est que des procédés qui ont été mis en œuvre pour la première fois. C'est un grand challenge. On s'approche du four qui est en fonctionnement et donc qui est alimenté par du gaz et de l'air pour séparer les matériaux. Une fois ce traitement fini, tous les plastiques se sont évaporés et on a tous les matériaux importants à récolter. Le silicium, l'argent, le cuivre. Ces cellules photovoltaïques, ça représente seulement 3% de la masse totale du panneau. Donc c'est pas grand-chose. Par contre, en valeur, c'est les 2/3 de la valeur de matériaux qu'il y a dans le panneau photovoltaïque. Donc nous, on va vraiment travailler à récupérer ces cellules photovoltaïques pour arriver à les revendre et les remettre dans l'industrie européenne.
Ça va servir à quoi après ?
Alors, ça pourrait servir à faire des nouveaux panneaux photovoltaïques. Malheureusement, la majorité, si ce n'est la quasi-totalité des panneaux photovoltaïques actuellement, sont fabriqués en Chine. Donc qui a beaucoup d'efforts actuellement pour réindustrialiser en Europe, mais ça va prendre du temps. Le cuivre et l'aluminium, il y a tout un usage dans toutes les industries. Le silicium, il peut être utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs, de plus en plus dans l'automobile avec les voitures électriques et avec les batteries. C'est un déchet quand ça entre dans notre usine et c'est un matériau qui sert à l'industrie quand ça sort de notre usine. Et puis on peut passer à la dernière étape. Donc ces morceaux de verre, très transparents, sont envoyés à des verriers à la recherche de calcins recyclés pour diminuer, eux, leurs émissions de CO2 parce que l'industrie verrière est très émettrice de gaz à effet de serre. On arrive à un moment un peu charnière où le volume de déchets commence à augmenter et on peut enfin passer à l'échelle industrielle des technologies avancées de recyclage. Et je pense que ça sera la même chose pour les éoliennes. Faire cette activité comme on l'a fait, d'une part, c'est rentable pour nous, et d'autre part, ça répond à des besoins, des enjeux de performance environnementale qu'ont toutes les grandes entreprises industrielles actuellement. Aujourd'hui, on installe plus de 100 fois plus de panneaux que ce qu'on peut traiter actuellement. Donc, dans 20 ans, 30 ans, il faudrait être capable de recycler tous ces panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, on n'est qu'au début d'une histoire du recyclage dans cette filière.
Delphine Simon pour ce feuilleton Une semaine dans leur vie, réalisé par Stéphane Ronxin et que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
13h50, c'est la France, c'est le vendredi, on a rendez-vous avec le quotidien L'Équipe. Jean-Philippe Leclerc, vous allez nous parler aujourd'hui de sport et de cinéma.
Oui Céline, on m'a dit que vous aimiez beaucoup le cinéma.
Mais oui.
Il ne vous a donc pas échappé que mercredi prochain débutera la 77e édition du Festival de Cannes. Ah Cannes, sa croisette, son tapis rouge, sa montée des marches, sa palme d'or, ses fêtes, ses picassiettes et ses starlettes. À Cannes, tout est cinéma, même le football. La preuve, l'association sportive de Cannes, modeste club de National 2, soit la 4e division du football français, appartient depuis un an à des riches producteurs du 7e art, les Américains Dan Friedkin et son fils Ryan. Côté tapis rouge, Dan Friedkin, le papa de 59 ans, possède un joli palmarès. Il a notamment produit The Square, Palme d'Or à Cannes en 2017. On lui doit aussi des films comme La Mule, de et avec Clint Eastwood, ou Killer of the Flower Moon, le dernier chef-d'œuvre de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Côté tapis vert, les Friedkin, père et fils, sont déjà propriétaires d'un club de football autrement plus prestigieux, l'AS Rome, trois fois championne d'Italie et vainqueur d'une Coupe d'Europe il y a 2 ans.
Alors pourquoi les Friedkin ont-ils donc racheté le club de football de Cannes?
Eh bien Céline, c'est une excellente question qu'un an après le rachat, les Canois continuent de se poser. Au moment de la vente, Dan et Ryan Friedkin avaient tenu une brève conférence de presse, mais les journalistes n'avaient pas eu le droit de poser des questions. Et depuis, ni le père ni le fils n'ont accordé la moindre interview. Alors, peut-être veulent-ils transformer à terme l'AS Cannes en un club filière de l'AS Rome. Des jeunes joueurs romains pourraient venir s'aguerrir dans les dures joutes des divisions inférieures françaises avant de retourner briller avec la maison mère italienne. On évoque aussi de possibles visées immobilières, car à côté du stade Pierre de Coubertin se trouve un immense parking où il serait tentant de construire des résidences de luxe. Mais le maire de Cannes, David Lisnard, dément catégoriquement ces rumeurs. Alors il y a une autre hypothèse, un peu farfelue, mais après tout, pourquoi pas?
Laquelle?
Les Friedkin, experts en storytelling et scénarios bien ficelés, ont peut-être tout simplement été séduits par l'histoire de l'AS Cannes. Fondée au début du siècle dernier par une bande de copains du quartier de la Boca, dont un anglais, Herbert Lowe, le club azuréen a remporté la Coupe de France en 1932. Mais le football français doit surtout remercier les Rouges et Blancs pour avoir formé et lancé le grand, l'immense Zinedine Zidane. Venu de son Marseille natal en 1987, alors qu'il avait seulement 15 ans, le jeune Zizou, à l'époque on le surnommait plutôt Yazid, a passé 5 ans au centre de formation cannois. Il habitait dans une famille d'accueil chez Nicole et Jean-Claude Eulino, et il a donc disputé ses premiers matchs professionnels au stade Pierre de Coubertin. Donc, si les Friedkin veulent financer un jour un biopic de Zizou, ils disposent déjà d'une partie des décors naturels.
Ouais, c'est une hypothèse intéressante. Alors, est-ce que les Américains ont déjà investi beaucoup d'argent dans la S-Can?
Pour l'instant, non. Mais yes, they can. Au moment de la vente, le budget 2023-2024 était déjà bouclé. Avec 1,6 million d'euros, c'est seulement le 6e budget du groupe A de National 2. Mais Dan Friedkin possède une fortune personnelle estimée à 6,3 milliards de dollars. Des chiffres qui font forcément rêver les supporters des Rouges et Blancs. L'objectif est de regrimper rapidement les échelons jusqu'en Ligue 2, voire en Ligue 1, que l'AS Cannes n'a plus fréquenté depuis 1998, l'année où Zinedine Zidane remportait la Coupe du Monde avec les Bleus. En attendant, les footballeurs cannois, actuellement 4e de leur groupe, se déplacent
demain à hier, avant de conclure la saison en recevant Thonon et Vian. Oui, on n'est pas encore dans la super production hollywoodienne, plutôt dans le film d'auteur.
Merci Jean-Philippe Leclerc du quotidien L'Équipe de C'est la France. Ah, c'est une chanson et c'est avec une pianiste, une grande pianiste que vous parlez chanson aujourd'hui, Frédéric Pommier. Il s'agit de Shani Di Luca.
Pianiste et poétesse qui se produit aujourd'hui sur les scènes les plus prestigieuses du monde et qui la semaine prochaine, le 16 mai, participera au festival jazz à Saint-Germain-des-Prés, quartier qu'elle connaît bien pour y avoir passé une partie de son adolescence. Et c'est justement de celle qui fut l'icône de Saint-Germain-des-Prés que Shani Di Luca a souhaité me parler. Une chanteuse, une actrice, une amie des poètes, j'ai nommé Juliette Gréco.
Je crois que c'est une figure iconique. De par sa liberté, de par cette force de résistance, sa propre vie, elle qui arrive d'une famille humble, un père absent, elle arrive poursuivie par la Gestapo à Paris, elle se réfugie alors que sa sœur et sa mère sont arrêtées, envoyées dans les camps, et elle arrive à se construire de rien du tout en mettant une paire de chaussures et un pantalon. Tout d'un coup, elle devient l'icône de Saint-Germain-des-Prés, elle rencontre Prévert, Boris Vian, elle est dans une sorte de lutte jusqu'à la fin de sa vie pour la liberté, pour le pacifisme. Et puis évidemment, il y a Miles Davis, l'amour impossible entre Gilles Gréco et Miles Davis, la lutte pour les droits civiques, la vie, une conscience de ces choses-là. Moi, en tant que fille d'immigrée, entre plusieurs cultures, ce sont vraiment des valeurs qui résonnent profondément. Et elle a lutté, elle a toujours mis en lumière ces luttes essentielles.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile.
Alors cette chanson elle a pour titre Utile. Les paroles sont signées Étienne Rodagil et la musique est de Julien Clerc.
Et la version de Julien Clerc est sortie en 1992. Juliette Gréco l'a reprise en 2006, son album Le temps d'une chanson. Et c'est vraiment l'une des chansons préférées de Shani Di Luca.
Être utile à vivre et à rêver, je dirais que c'est la mission qui m'habite avec mon piano tous les jours, quand je suis en concert, quand je joue pour les détenus à la prison de Meaux. Quand je suis en relation avec le monde, cette chanson, elle résonne. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, je ne vais pas pouvoir régler des questions diplomatiques ou sociales. Mais déjà être utile à faire rêver et à vivre, à être vivant, quelle mission noble, quelle belle mission. Et quelle musique d'ailleurs, quand on entend l'accordéon et quand on entend les cordes derrière, il y a tout cet héritage aussi des orchestrations de Ferré et de Brel, qui nous manque un peu aujourd'hui, je trouve. Il y a cette densité harmonique dont je suis très consciente par la musique classique, mais Julien Clerc, il a ce sens des mélodies et c'est un moment de grâce entre les mots de Rodagil, la voix de Juliette Gréco et la musique de Julien Clerc.
Je veux être utile à vivre et à rêver.
Vous, vous préférez la version de Julien Gréco à celle de Julien Clerc?
Alors, c'est difficile de dire cela, mais Gréco, lorsqu'elle dit par exemple « Ils m'aimaient, ils m'aimeront », déjà, on sent toute sa vie. C'est une comédienne, on dit le Sprechgesang, un peu comme Marlène Dietrich. Elle parle, elle chante en même temps. Quand elle dit le mot rêver, il y a un frisson qui s'empare de soi. Parce qu'il y a toute son histoire, on le sent. On sent une sacralité qui est particulière quand elle chante sa chanson.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? On dit j'ai des chiens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne.
on voudrait massacrer.
Est-ce que c'est une chanson que vous avez besoin d'écouter de temps en temps?
Oui, je crois qu'elle me poursuit depuis longtemps et à chaque fois que je l'écoute, elle me rassure sur mes convictions. Il y a quelque chose de l'ordre de la conviction, du sens humain, de notre place au monde. Comment retrouver une place simple et essentielle? Et donc, parfois on a des pressions énormes quand on joue aussi à la radio européenne, en direct. Mais je pourrais écouter cette chanson avant de rentrer sur scène et oublier tout l'enjeu. Puisque l'important, c'est d'être utile et de pouvoir apporter ce moment-là. Et là, tout disparaît. Et donc, oui, elle fait partie de mon chemin régulièrement.
À quoi sert une chanson si elle est déjà remise?
Juliette Gréco, utile, c'était donc Frédéric, le choix de la pianiste Shani Di Luca.
Shani Di Luca en concert le 16 mai lors du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, un concert autour des œuvres de Jean-Sébastien Bach.
Merci Frédéric Pommier pour C'est une chanson. Le 13-14 de cette semaine a été préparé par Antoine Quevilly, Estelle Schmitt, Stéphane Leneuf et Daniel Boudier à la rédaction en chef, accompagné de Stéphanie Valois, assistée par Sylvain Lesage, Rachid Zourdani, Carline Desrosiers et Fabien Tchekopar. Merci également à nos techniciens, Florian Dorimini, Romain Leborne, Sofiane Actib et Gilles Gaillard. Et bien sûr, un grand merci à tous les standardistes de France Inter. Dans un instant, la Terre au carré avec Mathieu Vidard et Guy Vanctil qui nous emmènera en Corée du Sud. Restez avec nous sur France Inter.